Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Julie Delabrosse, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes et Louis Drillon. À la réalisation, Elisabeth Miro, à la technique, Jacques Azubert.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
L'écho se propage au vendredi. Après les quatre volets de notre semaine thématique, nous explorerons chaque vendredi entre 14h et 15h une actualité économique que l'on mettra en perspective avec des experts et des chercheurs en sciences sociales. On verra chaque semaine ce que cette actualité nous dit du fonctionnement de l'économie et ce qu'elle nous apprend sur la théorie. À 14h45, vous découvrirez un nouveau rendez-vous, la bibliothèque idéale de l'écho. Et c'est Daniel Cohen qui ouvrira le bal avec son dernier essai, Il faut dire que les temps ont changé, publié chez Albin Michel. Mais d'abord, du Venezuela à la Turquie, l'été meurtrier des monnaies, c'est notre sujet aujourd'hui. Une décision radicale pour tenter de juguler l'hyperinflation. Le gouvernement de Nicolas Maduro a supprimé 5-0 du bolivar, la monnaie vénézuélienne, il y a 10 jours. La hausse vertigineuse des prix a déjà poussé des centaines de milliers de Vénézuéliens à quitter le territoire. Pendant ce temps, en Turquie, la monnaie a perdu près de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année et le pays affronte une crise économique et sociale historique. Son voisin iranien ne se porte guère mieux. La chute du rial et l'inflation ont entraîné de nouvelles manifestations début août, après les contestations massives de décembre dernier. Alors comment expliquer cet été meurtrier des monnaies et quelles pourraient en être les conséquences pour l'économie mondiale ? Alors que les banques centrales commencent à relever leurs taux directeurs et que d'autres devises ont plongé dans le sillage de la livre turque, faut-il redouter une nouvelle crise monétaire à l'image de la crise asiatique de la fin des années 90 ? Et plus largement, qu'est-ce que ces crises nous disent du fonctionnement et du rôle de la monnaie ? On en parle avec nos trois invités. David Kella, maître de conférence à l'université d'Angers et contributeur de l'ouvrage « La monnaie, un enjeu politique » paru il y a quelques mois au Seuil. Philippe Wächter, directeur de la recherche économique d'Ostrum Asset Management, anciennement Natixis Asset Management, et Christophe Destet, directeur adjoint du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'informations internationales.
Le pays peut s'en sortir, mais en suivant le chemin d'un nouveau programme économique. Un nouveau schéma qui fige la valeur des salaires, des services et des biens. Ce sont les nouvelles règles du jeu économique.
David Kella, Philippe Wächter et Christophe Destet, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Et d'abord, peut-être une réaction à ce son de Nicolas Maduro. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le Venezuela en est arrivé à une inflation de 1 million de pourcents ? David Kella.
On a par rapport au Venezuela une économie qui est en totale déroute, hein, un régime qui se crispe, des milliers de personnes qui fuient le pays. Donc effectivement, à partir du moment où il n'y a plus de confiance du tout dans l'État, dans les institutions, évidemment, cette manque de confiance affecte forcément la monnaie. Alors, on a entendu dans le son Maduro, président vénézuélien, qui explique qu'il va figer les salaires, hein, pour essayer de garantir la valeur de la monnaie, mais en réalité, ça ne marche pas comme ça. La confiance ne peut pas être se construire à coup d'oukase où on dit voilà, les prix vont être bloqués. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes de l'économie vénézuélienne, c'est d'avoir pas su concilier en fait à la fois une intervention publique forte qui, de mon point de vue, n'est pas forcément illégitime, mais en même temps le marché, c'est-à-dire que ils ont pas été complètement communistes, c'est-à-dire en supprimant totalement le marché. D'ailleurs, s'ils supprimaient totalement le marché, eh bien il n'y aurait pas d'inflation, puisque concrètement on décide des prix, de tous les prix. Et en même temps, donc ils ont laissé le marché, et en même temps ils ont organisé un système productif qui ne permettait pas de produire notamment les biens alimentaires nécessaires à la population. Donc forcément, ni l'administration ni le marché n'ont été efficaces au Venezuela.
Christophe Destet, c'est cet entre-deux qui explique cette hyperinflation ?
Alors, il faut aussi voir que le Venezuela, comme chacun sait, est un pays producteur de pétrole. Il a les plus grandes réserves pétrolières prouvées, même si leur exploitation est assez coûteuse. Et comme tous les pays riches en ressources naturelles, il est susceptible d'être affecté par une maladie qui s'appelle la malédiction des ressources naturelles, en anglais the resource curse, fait qu'il y a une éviction de la production domestique au profit de la production d'hydrocarbures et de l'importation de la plupart des biens et services de première nécessité, surtout les biens. Le Venezuela est non seulement affecté par cette maladie qui est aussi présente dans d'autres pays, mais il paie le prix de 20 ans d'une gestion très erratique et désordonnée de l'économie, avec un interventionnisme public qui a complètement déstructuré l'offre de biens et services, et avec ce que j'appellerais, pour parler vite, un populisme de gauche qui a consisté à redistribuer des revenus d'une manière assez massive en s'appuyant sur la rente pétrolière. La rente pétrolière a diminué avec la baisse des prix du pétrole. Le gouvernement vénézuélien a continué à financer ses dépenses et il a été obligé de faire fonctionner ce qu'on appelle la planche à billets.
Alors justement,
d'où une situation d'hyperinflation aujourd'hui.
Alors effectivement, il y a cette chute des prix du pétrole qui a eu beaucoup d'impact sur l'économie vénézuélienne. On parle aussi aujourd'hui d'une grande faiblesse de la productivité et d'une ultra spécialisation. Le Venezuela n'a pas su diversifier son économie, Philippe Vechter.
Alors il faut. Non, c'est pas aussi simple que ça. Le Venezuela, à la fin des années 80, avait un complexe pétrochimique très organisé dans la baie de Maracaibo. Et progressivement, les entreprises, notamment les entreprises américaines qui étaient là, parce que le Venezuela était presque un État américain, hein, c'était un grand État du baseball, etc., les entreprises américaines et les ingénieurs américains ont progressivement été poussés dehors, et c'est l'entreprise pétrolière vénézuélienne, PDVSA, qui devait organiser tout cela. Ça ne s'est pas fait. Et donc il y a eu une attrition du type de production disponible à partir du pétrole. Et donc de fil en aiguille, le PDVSA n'a pas répondu du tout à ce qui était attendu, et la productivité de l'extraction de pétrole a été très médiocre. Donc quand le pétrole en 2012, 13, 14 jusqu'en juillet était à $110, c'était jouable. Sauf que après, le prix du pétrole s'effondre, les ressources de ce fait-là ne sont plus aussi importantes, et comme le disait Christophe Destet, difficulté à importer, parce qu'on a on exporte moins de pétrole et on a moins de revenus. Et ce qu'on constate depuis un an maintenant, c'est que la production pétrolière s'effondre. C'est-à-dire qu'elle n'est plus il y a une obsolescence de l'infrastructure pétrolière. Donc le pétrole, les revenus pétroliers baissent, et le gouvernement a essayé depuis la fin 2017 de compenser par des émissions monétaires. Ce qui fait que quand on regarde la situation vénézuélienne aujourd'hui, on a une production de pétrolière très faible, avec des revenus associés qui sont réduits parce que le prix du pétrole a baissé, et de la monnaie en circulation qui a augmenté de façon absolument spectaculaire. C'est la recette habituelle d'une hyperinflation, c'est-à-dire que vous êtes dans un environnement extrêmement fragile, vous avez beaucoup de monnaie qui circule, et les Vénézuéliens n'ont plus aucune envie de détenir cette monnaie. C'est ça la problématique de l'hyperinflation. À un moment donné, les gens ne veulent plus détenir la monnaie et s'en débarrassent le plus vite possible. Et donc vous avez une montée des prix qui est absolument considérable.
David Kellam.
Oui, alors justement sur l'hyperinflation, de mon point de vue, il suffit.
Peut-être que vous pouvez nous expliquer la différence entre l'hyperinflation et l'inflation.
Oui, dès qu'on est dans les autres pays du monde, on est notamment en Turquie, on est sur des régimes d'inflation élevés, c'est-à-dire on est entre 10 et 20%. Là, quand on parle d'une multiplication par 1 million des prix,
C'est un régime totalement différent. Et en réalité, je ne crois pas que l'origine de cette hyperinflation soit la planche à billets. C'est-à-dire, concrètement, c'est plutôt une désorganisation totale du système de production vénézuélien. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Bien, les gens ne trouvent plus à manger, en fait. Hein. C'est-à-dire que les magasins sont vides, ils ont du mal à s'approvisionner. Et donc, on a une forme de marché noir qui se crée, parce que concrètement, les prix, en plus, sont réglementés. Donc, dans les magasins officiels, on ne trouve rien, mais on trouve sur le marché noir. Donc, c'est évidemment que ça crée une hausse des prix. Et en réalité, de mon point de vue, c'est la planche à billets arrive a posteriori. C'est-à-dire, concrètement, pour maintenir le système et quand même essayer de donner à chacun un peu quelque chose, on va augmenter l'émission monétaire pour contrebalancer l'inflation. Et là, on arrive sur un cycle qui, pour moi, a pour origine fondamentale la défiance absolue, la défiance dans la monnaie, qui est aussi une défiance dans l'État et dans les institutions, et en fin de compte, un effondrement économique que vous avez très bien rappelé.
Voilà, alors, on a bien compris l'état des lieux de l'économie vénézuélienne, mais alors, quelle est, dans ce panorama, la responsabilité des sanctions économiques américaines, puisque Nicolas Maduro, lui, pointe du doigt la responsabilité de ces sanctions.
Oui, mais ces sanctions ne datent pas d'aujourd'hui, en fait. Hein. C'est-à-dire que
elles ont accéléré le processus
J'en suis même pas sûr, parce que concrètement, il y avait des sanctions américaines depuis, une hostilité américaine très forte au moment du début du chavisme. Il n'y en avait pas à ce moment-là d'hyperinflation. On avait une inflation forte, mais c'était pas du tout le même système. J'ai l'impression que le gouvernement chaviste, de Maduro, n'est plus vraiment dans la continuité de ce qui se passait avant. C'est-à-dire concrètement, on voit bien des révoltes civiles, la population qui part, une désorganisation profonde du système, des manifestations, même une légitimité politique, parce que il y a un parlement qui n'a pas de pouvoir, une constituante qui essaye de prendre en place qui essaie de prendre le pouvoir du parlement. Donc, de mon point de vue, c'est d'abord un problème interne. Et d'ailleurs, les épisodes hyperinflationnistes, en général, ils sont toujours le produit d'une désorganisation profonde de la société dans laquelle on est.
Philippe Bechtner.
Le phénomène majeur sur les derniers mois au Venezuela, c'est le fait que la production pétrolière s'effondre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de ressources. C'est ça la vraie question. C'est-à-dire que les Vénézuéliens et Chavez en tête ont réduit la diversité de l'économie en virant ceux qui étaient ceux qui pouvaient aider. Et donc il y a eu le système continuait de fonctionner tant que la production pétrolière était à peu près stable. Depuis un an, elle s'effondre et donc il n'y a plus de revenus. Et donc il faut compenser ces revenus par des émissions monétaires en se disant, à un moment donné, ça va peut-être fonctionner. Mais ça ne fonctionne pas du tout.
Le gouvernement vénézuélien a décidé de créer une crypto-monnaie indexée sur le prix du baril de pétrole, une crypto-monnaie qui s'appellerait le Petro. Alors les autorités ont ordonné aux banques de l'adopter comme unité de compte. Est-ce que cette crypto-monnaie pourrait être une solution, Christophe Destet ?
Alors, j'en doute fortement. C'est une expérience, c'est la première crypto-monnaie souveraine. Mais comme mes collègues l'ont très bien dit, ce qui fait la valeur d'une monnaie, c'est la confiance. Et la confiance dans l'État vénézuélien aujourd'hui est quasi inexistante. Par ailleurs, la communication du gouvernement vénézuélien, je suis allé la lire, sur ce point est toujours très vague. Il n'explique pas les mécanismes par lesquels il maintiendrait stable le volume des pétros, et il n'explique pas par quel mécanisme il indexerait sa nouvelle monnaie, le bolivar souverain, au pétro.
Ce projet est influencé par une conception de la monnaie selon laquelle, pour avoir de la valeur et susciter de la confiance, cette monnaie doit être gagée sur quelque chose. Donc autrefois, c'était l'or ou l'argent. Ici, c'est le pétrole. Mmh. Est-ce que vous diriez, Philippe Béchard, que cette conception est dépassée ?
Non, mais elle n'a même pas de sens, là, en l'occurrence, parce que on essaie de jouer un petit peu de côté. On crée une nouvelle monnaie parce qu'on n'a plus du tout confiance dans la monnaie qui existe. Et on se dit, le pétrole, c'est un truc en dur. On va pouvoir s'appuyer dessus, comme on s'appuyait sur l'or, sur le blé ou ce qu'on veut par le passé. Le problème, c'est comme le disait Christophe, on ne sait pas du tout comment ça va fonctionner. Et la production pétrolière s'effondre. Donc il y a une vraie interrogation sur le mode de fonctionnement de l'économie monétaire au Venezuela. Et on a le sentiment que c'est juste une sorte de faire valoir qui n'a pas plus d'importance que ça.
David Kellar.
Oui, si je peux rajouter juste un mot, la monnaie, ce n'est pas de la richesse. Le vrai problème du Venezuela, c'est la production de richesses, c'est la production de biens et services nécessaires à la population. Vous pouvez introduire n'importe quel système monétaire. Si en face, il n'y a pas de richesse à acheter, la monnaie n'aura pas de valeur. Elle ne vaut que pour la richesse qu'elle peut acheter.
Autre pays touché par une inflation galopante et une dégringolade de sa monnaie, on l'évoquait, c'est la Turquie. Les sanctions américaines ont été la goutte d'eau qui a précipité le pays dans la crise. On écoute le président Erdogan.
Si vous avez des dollars, des euros ou même de l'or caché sous votre oreiller, allez à la banque les échanger contre des livres turcs. C'est une lutte pour notre pays.
Recep Tayyip Erdogan qui accuse donc les États-Unis d'être à l'origine d'un complot contre la Turquie. Une réaction à Christophe Destet, et comment expliquer que la livre turque ait ainsi chuté de, on dit, à peu près 45% depuis le début de l'année?
Alors, juste une petite remarque. Ça fait référence à un épisode qui s'est effectivement passé, mais dans un environnement culturel tout à fait différent. C'est ce qu'ont fait les Coréens en 1997-98. Effectivement, ils sont allés porter leur or à la banque par solidarité nationale.
Et cela a fonctionné ?
Et ça a contribué, parmi de nombreux autres facteurs, à un rétablissement rapide de la situation. La Turquie, pardon, n'est pas du tout dans cette situation sur le plan culturel. Et puis, elle est dans une situation depuis de nombreuses années maintenant de déficit extérieur, de solde courant négatif, qu'elle finance par des apports de capitaux, essentiellement des apports de capitaux à court terme pour ses banques. Qui ont bénéficié de taux faibles, car, pour reprendre l'expression d'un observateur bien connu de la Turquie, qui est Dany Rodrik, les marchés financiers faisaient crédit à Erdogan de son succès antérieur, en fait, à juguler la précédente crise. Aujourd'hui, il y a un retournement de l'appréciation des marchés internationaux vis-à-vis de la Turquie dans un contexte plus large, dans le contexte des relations bilatérales avec les États-Unis et puis dans un contexte de hausse des taux d'intérêt. Mais il y a avant tout une réévaluation du risque turc par les marchés. Un bon exemple pour douter de la qualité de ce risque, c'est le développement des investissements somptuaires que le président, qui accapare tous les pouvoirs, a mis en œuvre.
La situation turque est évidemment très différente de celle du Venezuela, mais est-ce que la crise monétaire pourrait tout de même dégénérer en Turquie, David Kellar ?
Alors non, je ne pense pas qu'elle pourrait dégénérer au point d'arriver à un épisode d'hyperinflation. En réalité, pour ce qui est de la Turquie, on retrouve, moi je suis entièrement d'accord avec ce qui était dit tout à l'heure, on retrouve un peu les éléments de la crise asiatique de 97-98. J'entends par là le fait qu'on a une économie qui est en forte croissance. On est sur des ordres de 5-6% de croissance annuelle depuis un certain temps. Donc c'est une économie qui produit des biens et des richesses qui sont attractifs. Hein. Mais c'est aussi une économie, comme ça a été dit aussi, qui est en déficit commercial important, de l'ordre, je crois, de 6% de son PIB. Et du coup, cela nécessite des apports financiers de l'extérieur. Et ça, c'était exactement la même situation qu'on trouvait en Thaïlande à l'époque où ça s'est déclenché, hein, c'était la crise du baht. C'est-à-dire, donc, une espèce de crise de croissance de l'économie. Alors qui, pour le cas turc, cependant, sur lequel on rajoute quand même une chose qui est la difficulté diplomatique de la Turquie en ce moment, qui est aussi liée au caractère très particulier de son président, hein, qui on a quand même eu un coup d'État, on a donc effectivement des tensions internes qui sont assez fortes. Cela dit, il y a eu des coups d'État aussi en Thaïlande, assez nombreux. Hein, mais donc moi je vois pas l'hyperinflation venir. Par contre, je vois une vraie question. Qui va être, comme aujourd'hui, alors que globalement on a des tensions commerciales qui apparaissent du fait de la politique américaine de Trump, on a aussi un dessèchement des liquidités. Je veux dire par là que la politique fiscale, là aussi, des États-Unis conduit à un rapatriement des liquidités des entreprises américaines sur le sol américain. Donc quelque part, ça crée un peu un manque de liquidités aussi dans ces pays-là. Et en même temps, on est en fin de cycle économique aux États-Unis, donc avec des risques de crise financière. Tout le monde a en tête l'idée que maintenant, le monde devient plus risqué. Les tensions commerciales, le risque de crise financière, les émergents qui sont effectivement des régimes un peu instables. Et donc évidemment, ça casse la confiance et ça crée cette chute de la monnaie, parce que simplement les gens refusent d'investir ou ne veulent plus investir autant ou veulent plus prêter autant à la Turquie. Donc ça se soldera a priori à court terme par un rééquilibrage de la balance commerciale turque, mais évidemment ça veut dire aussi une baisse des dépenses et donc une baisse des revenus des Turcs.
Que peut faire aujourd'hui le gouvernement turc? On a beaucoup parlé de son incompétence et le fait notamment que Erdogan refuse de relever les taux directeurs. Qu'est-ce que vous préconisez, Philippe Wächter?
Avant cela, je voudrais juste dire un mot pour terminer sur le Venezuela.
Bien
parce
sûr.
Que Maduro a annoncé un certain nombre de mesures il y a une dizaine de jours, mais aucune au regard des épisodes d'hyperinflation précédentes en Allemagne, etc. Aucune des mesures qui avaient été prises à l'époque pour stopper l'hyperinflation n'ont été prises en Turquie, au Venezuela. Il n'y a pas eu d'engagement à réduire les émissions monétaires, il n'y a pas eu d'engagement du Venezuela vis-à-vis du reste du monde. Maduro a dit « je ne veux surtout pas mêler le FMI à tout cela ». Et donc, il y a eu un effet d'annonce, les 5-0 que vous évoquez ont été biffés, mais ça ne change rien. Et les Vénézuéliens continuent de s'en aller. Alors, sur la Turquie, je pense qu'il y a pour reprendre les choses très, très simplement, il y a trois étapes depuis le mois d'avril. Au mois d'avril, tous les pays émergents commencent à être fragilisés par la hausse du dollar pour des raisons d'anticipation de ce que sera la politique monétaire américaine, etc. Il y a une perte de liquidité. Tous les pays émergents sont fragilisés. Ceux qui le sont davantage, c'est la deuxième étape, sont tous les pays qui sont très endettés en dollars. La Turquie, l'Indonésie, l'Argentine, l'Afrique du Sud, tous ces pays sont affectés par cette situation, parce que l'endettement en dollars, quand votre monnaie se casse la figure, ça devient très compliqué, et donc il faut trouver un moyen de... Enfin, il y a une vraie défiance qui s'installe.
Et alors, sur ce que peut faire le gouvernement turc?
Et sur ce que peut faire, ben, pour l'instant, pas grand-chose. Le gouvernement turc n'a pas fait grand-chose. Au moment des tensions avec les États-Unis qui a provoqué cette crise, Erdogan a discuté avec l'Allemagne, a discuté avec la France... Mais ça n'a pas été beaucoup plus loin. Les banques ont été dégradées par les agences de notation. Donc la livre turque est repartie à la baisse. Et pour l'instant, on en reste là. Il n'y a pas d'annonces particulières qui ont été faites. Ce matin, le ministère de l'économie turque a annoncé une réduction de la fiscalité sur certains placements. Ça a permis de stabiliser la livre, mais on n'a pas de mesures qui ont été prises qui permettraient d'inverser, de changer la perception qu'on a de la Turquie. Et c'est ça la vraie difficulté. Les investisseurs n'ont plus aucune envie d'aller en Turquie.
Christophe Destey.
Juste une petite remarque sur le parallèle entre la crise turque et la crise asiatique. C'est vrai que les pays asiatiques étaient en déficit courant lorsque la crise s'est produite. C'est vrai qu'un certain nombre d'entre eux, et notamment la Thaïlande, avaient leurs banques endettées à court terme en devises pour financer à long terme des emplois domestiques. En revanche, il y a une différence importante à mes yeux, c'est que les pays asiatiques avaient des niveaux d'épargne structurels très élevés. Et faire face à une crise financière avec des niveaux d'épargne structurels très élevés, c'est beaucoup plus facile, parce qu'ils ont diminué l'investissement et ils se sont à nouveau retrouvés en excédent. Situation qui n'est pas du tout celle de l'Argentine et pas du tout non plus celle de la Turquie, qui malgré le dynamisme de son économie est structurellement déficitaire.
Alors la tempête financière qui secoue actuellement la Turquie pourrait-elle se propager à l'Europe et au reste du monde? Les banques françaises et espagnoles seraient particulièrement exposées, David Kella?
Alors oui, alors sur la propagation, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a la propagation aux émergents, qui est une chose, notamment, on peut en parler, l'Argentine, etc.
On en parle dans un second temps.
Et la propagation aux économies européennes. Alors, moi, je pense pas. Enfin, je veux dire, concrètement, les économies européennes développées, je veux dire, la Turquie, c'est tout petit, hein, par rapport au même s'il y a évidemment des banques qui ont investi. Bon, par exemple, on a eu ce même problème au moment de l'épisode grec où les banques françaises et allemandes en particulier étaient très engagées.
Les craintes avaient existé à ce moment-là,
oui,
mais en réalité.
Le truc, c'est qu'on a quand même une économie en forte croissance. On a, alors évidemment, on a une chute de la monnaie, donc ça renchérit de fait les emprunts qui sont faits en devises. Et donc, évidemment, ça menace un peu les investissements qui sont faits par les Occidentaux et les Européens. Mais je ne pense pas que, même s'il y avait des faillites importantes en Turquie, je ne pense pas que ça entraînerait une contagion au continent européen.
Christophe Destès, sur cette contagion possible à l'Europe.
Alors, je suis d'accord, le risque turc n'est probablement pas suffisamment important pour provoquer une contagion. Le risque grec l'était, et les banques françaises et allemandes ont été sauvées par les financements que l'Union européenne a apportés à la Grèce, qui lui a permis de rembourser ses dettes.
Exactement.
S'agissant de l'exposition des banques aux pays émergents, je pense que ça pose une question plus large, qui est celle des flux de capitaux, de la liberté des flux de capitaux. C'est une question extrêmement complexe qui a souvent été abordée sous un angle idéologique et sur lequel, à mon avis, il faut mieux avoir une vision pragmatique. Un des facteurs pour restreindre les phénomènes que sur les marchés on appelle d'overshooting, de surréaction, c'est d'imposer des restrictions prudentielles, notamment aux banques, notamment aux intermédiaires financiers, pour limiter leur exposition à tel ou tel risque.
Alors pendant ce temps, en Iran, les protestations contre la vie chère ont repris début août, à la veille du rétablissement des sanctions américaines, un retour lié à la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en juillet 2015.
Quand vous allez au bazar acheter quelque chose, soit vous ne trouvez pas ce que vous voulez, soit le prix augmente entre 20 et 30% tous les jours.
On a eu de gros problèmes pour louer. C'est impossible aujourd'hui de trouver un appartement avec 15 millions de tomans de caution. Ce n'est pas assez. Pareil pour le lait, dont le prix est passé de 1200 à 1800 tomans par bouteille.
Voilà des témoignages de la vie chère en Iran. Dans le cas de l'Iran, par rapport à la Turquie ou au Venezuela, ce sont véritablement les sanctions américaines qui sont responsables de la crise que traverse le pays, du moins majoritairement, Philippe Bechter.
Oui, on a là une situation très, très différente des deux autres pays. C'est un pays qui était en phase de début de renaissance, hein, parce que les accords datent de 2015, donc tout le monde y allait à pas compter. Vous remarquez que dans la dynamique iranienne, aucune banque ne s'est aventurée, aucune banque française notamment, ne s'est aventurée en Iran, parce que chacun craignait que l'accord ne tienne pas dans la durée. Et donc personne ne voulait s'exposer, comme ont pu le faire d'autres banques françaises dans d'autres régions. Donc on était dans une phase de redémarrage, et là on coupe tout, et donc chacun essaye de sauvegarder sa situation et espère trouver des biens avant qu'ils ne deviennent trop rares. D'où l'effet sur les prix, et c'est lié effectivement aux sanctions américaines.
Christophe Destet, est-ce que vous diriez que les épisodes inflationnistes rencontrés dans plusieurs parties du monde, comme on l'a vu, ont à voir avec la guerre économique et les menaces protectionnistes qui planent sur l'économie mondiale? Quel lien est-ce qu'on peut établir?
Alors, je pense que les mesures protectionnistes ont pour effet inéluctable d'accélérer l'inflation. c'est classique, il y a moins de concurrence étrangère, il y a le prix, le montant des droits de douane qu'il faut rajouter au prix des biens importés. Donc inévitablement, ça va contribuer à accroître l'inflation. Néanmoins, là on parle de pays sont dans des situations particulières et qui ne sont pas affectées spécifiquement par les mesures protectionnistes, mais plutôt par d'autres formes de sanctions américaines, notamment financières.
Écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
Money isn't everything, de Hammerstein. Nous sommes toujours avec David Kella, Philippe Wächter et Christophe Destet pour parler des crises monétaires au Venezuela, en Turquie et en Iran. Et j'aimerais maintenant qu'on parle plus en détail de cette question de la contagion sur les autres pays émergents. Et d'abord, peut-être quels sont les pays émergents les plus exposés, selon vous, David Kella?
Alors c'est très simple, ce sont les pays qui ont des besoins de financement, puisqu'il y a une relation très claire entre la balance commerciale et les besoins de financement. Donc ça veut dire que les pays qui sont en déficit commercial, c'est-à-dire qui importent plus qu'ils n'exportent, eh bien ils ont des besoins de financement, et donc ils sont évidemment tributaires de l'argent des autres, en quelque sorte, et des investissements des autres. Et donc dès qu'ils commencent à avoir un manque de confiance dans l'économie de ces pays, pour des raisons politiques, pour des raisons économiques ou autres, eh bien les investissements s'en vont, hein, et du coup, eh bien la monnaie s'effondre. Et c'est exactement ce qui se passe, par exemple, pour la Turquie ou pour d'autres pays.
Et alors, quel autre pays cela concerne en premier? On parle de l'Afrique du Sud, de l'Argentine.
Alors, je ne connais pas les balances commerciales de tous les pays, mais le problème des pays en croissance, je veux dire, qui sont les pays émergents, c'est qu'en fait, ils ont besoin d'investissement. Concrètement, un pays émergent, c'est un pays en croissance rapide, et la croissance rapide vient de l'accumulation de biens d'investissement. Et cette accumulation de biens d'investissement nécessite une épargne. Or, l'épargne nationale n'est pas toujours suffisante, et donc très souvent, ces pays, eh bien, ils utilisent l'épargne des autres. Et donc, c'est pas forcément mal. C'est-à-dire, concrètement, bien entendu, la moitié des pays sont en excédent commercial, et l'autre moitié sont en déficit commercial. Les excédents des autres sont forcément égaux au déficit des autres. Et donc, le problème, c'est que se passe-t-il? Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais que se passe-t-il lorsque L'insécurité financière augmente, c'est-à-dire qu'on se pose la question d'une crise financière en raison de la fin de cycle des États-Unis. Lorsqu'on a des tensions commerciales qui apparaissent avec un président américain qui veut un peu tout renégocier, tout remettre à plat, et donc on se dit, est-ce que ces pays, ils vont pas voir leur balance commerciale se dégrader et donc avoir besoin d'encore plus de financement ? Est-ce que ces pays, ils vont pas subir le rapatriement des liquidités des Américains et d'autres ? Et est-ce que ces pays sont fiables ? Et le problème, c'est que lorsqu'un pays voit sa monnaie chuter, c'est pas juste que ça crée de l'inflation, ça à la limite, c'est pas le cœur du problème. Le problème, c'est que ça crée c'est que c'est plus personne veut prêter en fait à ces pays-là, ou alors dans leur devise à eux. Mais dans ce cas-là, ça crée un problème, c'est-à-dire que soit ils prêtent dans la devise du pays, et dans ce cas-là, ils sont remboursés beaucoup moins bien puisque la monnaie chute, soit ils prêtent dans leur propre devise, et le problème, c'est que dans ce cas, ces pays-là, ils n'ont plus assez de revenus. Puisque les emprunts qu'ils ont faits sont émis dans une monnaie qui n'est pas la leur et qui se réapprécie, et donc ils finissent par avoir un défaut. Et donc ces tensions et ces risques entraînent un blocage des systèmes de financement des pays émergents.
Et alors quel lien avec la hausse des taux américains dont on a commencé à parler, qui devrait se poursuivre, et la hausse future des taux européens qui est prévue à l'été 2019, quelles conséquences est-ce que ça pourrait avoir pour les pays émergents, Christophe Destet?
Toute chose égale par ailleurs, l'augmentation des taux d'intérêt dans les pays développés rend les investissements dans ces pays-là plus attractifs pour les investisseurs que dans les pays émergents. Donc c'est un des facteurs qui peut entraîner des sorties de capitaux. Un autre facteur que j'emprunte à Philippe Wächter, donc je cite mes sources, c'est ce qu'on appelle en bon français le flight to quality. C'est-à-dire que on sent bien quand même que, outre ces problèmes purement économiques, il y a des situations politiques extrêmement confuses, complexes et risquées dans un certain nombre de pays émergents, et que les investisseurs, même s'ils seraient susceptibles de trouver de meilleurs rendements dans les pays émergents, préfèrent revenir sur des monnaies plus sûres.
Donc le fly to quality, la hausse des taux directeurs, ce sont des raisons qui expliquent qu'aujourd'hui les investisseurs considèrent souvent les pays émergents comme des zones à fuir, alors qu'il y a un an, on avait l'impression que la confiance était beaucoup plus importante.
Oui, mais il y a trois remarques à faire. La première, c'est que les mouvements attendu et observé et anticipé sur la politique monétaire américaine, historiquement, créer des difficultés dans les pays émergents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la Fed aux États-Unis, la Banque centrale, baisse ses taux d'intérêt pour des raisons purement internes aux États-Unis. C'est plus très rentable d'aller d'investir aux États-Unis. Donc il y a des investissements qui vont se faire dans les pays émergents où les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés. Et puis, à un moment donné, la Banque centrale change de stratégie. Et là, les investisseurs trouvent qu'il est plus intéressant de revenir aux États-Unis. Donc vous avez des sorties de capitaux qui sont considérables et qui font que les pays émergents sont systématiquement fragilisés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que c'est l'année dernière, il y a 2 ans, les taux d'intérêt partout étaient très faibles. Il y avait très peu d'inflation. Toutes les banques centrales, ou presque, ont baissé leurs taux d'intérêt, y compris dans les pays émergents. Alors ça a dynamisé un peu l'économie mondiale, et beaucoup de ces pays se sont finalement, c'est peut-être une opportunité d'investir en dollars, de se développer, donc je vais m'endetter en dollars. Et donc ce sont des pays qui on voit bien, quand on regarde les profils de l'endettement en dollars, qui s'accélèrent de façon significative. Et donc au moment où les choses changent de nature, et comme le disait Christophe, au moment où en plus il y a des tensions, il y a une interrogation, il y a une situation internationale qui n'est plus la même, eh bien le risque émergent, plus personne n'a envie d'aller le prendre. Les agences de notation commencent à se gratter la tête en disant attention, c'est dangereux. Les directions des risques dans les institutions bancaires disent attention, on n'allait plus là. Et donc d'un seul coup, la situation bascule. Et donc vous avez malgré des taux d'intérêt qui remontent dans beaucoup de pays émergents, vous avez des taux d'intérêt sur la dette allemande qui sont toujours à 0,3%, qui ne bougent pas, parce que chacun veut y trouver un financement et un actif sûr.
David Keller, ces crises montrent aussi l'instabilité du système monétaire international qui touche particulièrement les pays émergents.
Oui, on est quand même dans une phase depuis les années 90 d'accélération de la mondialisation, qui n'est pas qu'une mondialisation commerciale, qui est aussi une mondialisation financière. Et moi, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, la question du contrôle des changes. Pour moi, c'est une vraie question. L'idée ou un peu l'idéologie qui veut que, en laissant libre les investisseurs d'investir un peu où ils veulent et comme ils veulent et de retirer aussi leurs capitaux selon leur bon vouloir, on arrive aussi à des phénomènes d'instabilité. On sait que les marchés ne sont pas le prix déterminé par les marchés peut surréagir, peut être très volatile. On le voit d'ailleurs ne serait-ce que sur les marchés agricoles ou sur d'autres marchés. Donc évidemment, les prix boursiers, les prix des capitaux sont pas toujours des prix qui correspondent à la valeur fondamentale des économies. Et donc là, il y a une question qui est que cette mondialisation financière, la libre circulation absolue et sans contrôle des capitaux, elle crée de l'instabilité et en particulier dans les économies les plus fragiles.
Alors plus largement, qu'est-ce que ces crises monétaires qui se multiplient nous disent du fonctionnement de la monnaie ? Est-ce que c'est un simple outil économique ou est-ce que c'est un instrument éminemment politique ? Il y a deux conceptions qui s'affrontent. Quel est votre regard, Philippe Wächter ? Est-ce que la monnaie est un outil qui serait neutre au service de la finance, c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas d'influence sur le niveau de production ?
La monnaie n'est jamais neutre. La monnaie n'est jamais neutre. Qu'on n'en émette pas assez, qu'on en émette trop, on sait que ça a des incidences sur les anticipations, sur les modes de production. Donc il y a un équilibre à trouver, un équilibre qui est très complexe et qui est d'autant plus compliqué aujourd'hui à trouver que dans les pays occidentaux, que ce soit en zone euro, que ce soit au Japon, que ce soit aux États-Unis, les banques centrales ont eu des comportements extrêmement vigoureux, si je puis dire, en termes d'émission de liquidités. Et les pays émergents sont un peu dans une situation complexe par rapport à ça. Donc ça n'est jamais neutre. N'imaginons pas que ça puisse l'être, à part dans les modèles néoclassiques que nous connaissons tous autour de la table, mais dont on sait qu'ils ne fonctionnent pas très bien.
L'économiste Jean-Marie Haribet, dans Libération, proposait en tout cas de repenser la monnaie comme une institution sociale et politique. De quelle façon, selon vous, David Keller, est-ce que vous êtes d'accord ?
Alors, je suis d'accord sur le fait que la conception qu'on a de la monnaie est parfois un peu simpliste et que la monnaie, c'est une institution sociale et politique. Je pense qu'il a raison. Après, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans les politiques monétaires ? Là, c'est plus compliqué. Mon point de vue, c'est que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas considérer, par exemple, que les taux de change qui sont donnés par les marchés sont des taux de change qui reflètent véritablement la vraie valeur fondamentale des monnaies. Il faut aussi essayer de... et alors ça, c'est ce que veut dire Jean-Marie Haribet, c'est-à-dire que dans la gestion des politiques monétaires, éviter de fonctionner selon des règles très simples, organisées par une autorité sans aucun contrôle politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère la monnaie comme un outil politique, eh bien, elle doit être rendue aux politiques, c'est-à-dire que le pouvoir politique a le droit de décider un certain nombre de politiques monétaires. Et donc, derrière la réflexion de Jean-Marie Haribet, il y a la question des statuts d'indépendance des banques centrales, par exemple.
C'est le fait que la monnaie est éminemment politique qui explique aussi, par exemple, que les monnaies locales se développent de plus en plus, cette défiance envers la monnaie dont on estime qu'elle déclenche des crises et dont on attend peut-être plus de liens sociaux, Christophe Desté.
Les monnaies locales sont très intéressantes. Elles ne sont pas un substitut à la monnaie, elles sont un substitut partiel dans des circonstances particulières. Et il n'y a pas d'expérience de monnaie locale durable, sauf en Suisse, où il y a un taux de change garanti entre le franc suisse et le Wix, je crois. Mais ce n'est pas une solution. Je voudrais revenir à la question de l'indépendance des banques centrales, parce qu'effectivement, elle est clé. On est bien d'accord, la monnaie n'est pas neutre, la monnaie est une institution sociale et politique. En même temps, c'est un outil qu'il faut savoir manipuler, qui est très complexe à manipuler. Et l'histoire montre que lorsque le pouvoir monétaire a été dans des mains politiques, il n'a pas toujours été utilisé à bon escient.
Et c'est actuellement ce qu'on entend, c'est que Donald Trump de plus en plus essaye de reprendre la main sur la Fed.
Alors il essaie de faire pression, mais néanmoins il a nommé Il a nommé à la tête de la Fed une personnalité relativement modérée et qui n'était pas un relais de ses opinions iconoclastes dans ce domaine, comme dans d'autres. Je crois qu'il y a un enjeu de dialogue démocratique entre les institutions d'émission monétaire, les banques centrales, et les représentants des gouvernements ou des parlements.
C'est ça.
Je termine. Les États-Unis ont un système dans lequel le gouverneur, qui est là-bas un président de la Fed, va parler deux fois par an au Congrès pour expliquer sa politique, pour se faire interroger sur sa politique. Il y a des petites choses comme, qui se passent comme ça entre la BCE et le Parlement européen, mais on en est loin. Je crois qu'il faut plus aller dans une logique de dialogue que dans une logique d'intervention.
David Keller, rapidement, et après je donnerai la parole à Philippe Becheter.
Je voulais juste préciser une chose, c'est que pour moi, la Banque centrale n'émet pas la monnaie. Hein. La monnaie, elle apparaît dans le crédit bancaire, et donc elle est endogène. C'est-à-dire que concrètement, elle est le produit de la nécessité des agents économiques d'emprunter, et donc c'est ainsi qu'elle est entraînée dans. Et la Banque centrale ne fait que réguler cette émission monétaire. Elle ne décide pas la mission monétaire.
Un mot de conclusion, Philippe Becheter.
Quand la Fed et la BCE mettent en place le quantitative easing. C'est une vraie volonté de stabiliser l'économie. Donc, et le crédit n'a rien à y faire, n'a rien à faire là-dedans. Donc, juste sur l'aspect politique de la monnaie. Aujourd'hui, la monnaie la plus forte reste le dollar. Et pourquoi ? Bah parce que politiquement, le pays le plus fort sur le plan politique, ce sont les États-Unis. Et Donald Trump, depuis un an, raconte tout un tas de choses qui effraient tout le monde. Mais toujours est-il qu'on ne perçoit pas en face, que ce soit en Europe ou en Chine, des contreparties qui pourraient le challenger. Et la monnaie reflète cette puissance politique.
Merci beaucoup, Philippe Becheter, David Kella et Christophe Desté. David Kella, je cite un de vos ouvrages au passage, L'économie du réel face au modèle trompeur, paru chez Debec. Un grand merci à tous les trois. Il est 14h45 sur France Culture. C'est l'heure de retrouver notre nouveau rendez-vous. Bienvenue dans la bibliothèque idéale de l'écho. Une bibliothèque virtuelle introduite par ces quelques notes des temps modernes de Charlie Chaplin. Chaque vendredi à 14h45, on vous proposera un ouvrage, soit une parution récente, soit un classique de la littérature économique, des essais qui constituent, selon nous, une bibliothèque idéale pour qui s'intéresse aux grandes dynamiques de l'économie. Et vous en êtes aujourd'hui le premier invité, Daniel Cohen, bonjour.
Bonjour.
Bravo et merci beaucoup d'être venu dans nos studios pour inaugurer cette bibliothèque et pour nous parler de votre dernier essai qui s'intitule « Il faut dire que les temps ont changé, chronique fiévreuse, entre parenthèses, d'une mutation aux éditions Albin Michel. Alors Daniel Cohen, je le rappelle, vous êtes le directeur du département d'économie de l'École Normale Supérieure, l'un des membres fondateurs de l'École d'économie de Paris, et vous avez publié de nombreux livres, La prospérité du vice, une introduction inquiète à l'économie en 2009, Homo economicus, prophète égaré des temps nouveaux en 2012. Et alors votre dernier ouvrage dresse un portrait très sombre d'un Occident désindustrialisé, miné par le populisme, divisé par la montée des inégalités et en proie à des poussées de fièvre xénophobe. Vous partez de ce constat, une civilisation s'est effondrée, celle de la société industrielle. Ce bouleversement, Daniel Cohen, c'est le point de départ de tous les autres.
Je crois, en fait, c'est très simple à dire, mais encore, bon, faut-il avoir le recul que l'on a aujourd'hui, pardon, pour pouvoir le dire aussi simplement, mais je crois que oui, tout simplement, l'errance des 50 dernières années, si on a fêté, célébré le 50e anniversaire de mai 68, et on peut mesurer à l'aune de cet anniversaire combien, en effet, les choses ont changé, je crois que tout simplement, nous avons été les témoins incrédules de l'effondrement de cette civilisation qu'apportait la société industrielle. avec ses ordres, ses hiérarchies, mais aussi ses avantages, qui étaient notamment de donner un rôle central à ce qu'on appelait à l'époque la classe ouvrière, avec ses syndicats, le tout dans un ensemble finalement cohérent, où chacun avait un peu sa place, où la croissance était à peu près également répartie. Il n'y a pas de modification majeure au cours des années d'après-guerre de la distribution des revenus, un petit peu, mais c'est tout à fait négligeable. Et c'est ce monde qui s'est effondré, et c'est ça qui explique en grande partie notre propre désarroi. Je crois qu'on a eu beaucoup de mal à interpréter en temps réel ce qu'était cette société post-industrielle. Le fait même qu'on l'appelle post-industrielle signifie qu'on ne sait pas la définir positivement autrement que par le monde qu'elle a aboli. Je crois que c'est en grande partie l'origine du désarroi qu'on est, dans une très large mesure, en train tous de constater.
La société post-industrielle se caractérise par l'importance prise par les services, sauf que dans les services, on ne peut pas faire d'importants gains de productivité, donc ce n'est pas comme cela que l'on peut créer de la croissance économique.
C'est exactement le cœur du problème. Cette société post-industrielle, il y a mille façons de la définir, mais je crois que la façon la plus simple, c'est celle que Jean Fourastier avait proposée en son temps, qui s'impose, qui est que, au fond, pendant des millénaires, les humains ont cultivé la terre, c'était les sociétés agraires, puis pendant deux siècles, ils ont travaillé la matière, c'était la société industrielle. Et dès un livre qu'il avait publié en 1948 et qui s'appelait « Le grand espoir du XXe siècle », il expliquait que le troisième âge, c'était celui d'une société de service où l'humain allait s'occuper de l'humain. La valeur produite dans cette société de service, c'est l'éducation, la santé, le soin aux personnes âgées. C'est une société dans laquelle le bien, c'est le temps que je passe avec quelqu'un. Je vais m'occuper d'une personne âgée, je vais éduquer quelqu'un. Donc, le temps est la valeur du bien produit. Dans une société comme celle-là, sauf à suivre la révolution conservatrice qui dit il faut travailler donc toujours plus pour retrouver la croissance, on voit, et il y a quand même des limites, on va pas travailler plus de 24 heures par jour, on voit qu'une société comme celle-là, fondamentalement, si c'est comme ça qu'il faut la définir, ne peut pas croître. Il n'y a pas de croissance possible si la valeur du bien, c'est le temps que je consacre à un client. Et c'est cette contradiction-là, je crois, qui à la fois explique la difficulté de retrouver un idéal de progrès matériel, et en même temps, je crois, c'est ça qui permet de comprendre la transformation que propose aujourd'hui la société numérique qui, de sa manière paradoxale, essaye d'apporter une réponse à ce manque de croissance de cette société de services qui, par parenthèse, je termine juste ce point, pour Fourassier, était une bonne chose. Le fait qu'il n'y ait plus de croissance signifiait qu'on allait s'installer dans un bien-être permanent où la relation à l'autre était dominante. Bref, il pensait que cette disparition de la croissance était le gage d'une humanisation qui, pour lui, était le grand espoir du XXe siècle.
Alors, justement, le numérique, vous en parlez dans Homo Economicus en 2012, vous décriviez un homme assoiffé de croissance et par nature insatiable. Cette fois, le héros de votre livre s'appelle l'Homo Digitalis, qui, individualiste à l'excès, se perd dans les méandres de cette société post-industrielle, déshumanisée, où le travail va devenir une denrée rare. Au fond, qu'est-ce qui sépare l'Homo Economicus de l'Homo Digitalis ?
Eh bien, écoutez, tout simplement, le fait que... Le remède à cette question, comment retrouver de la croissance, en fait, on est en train de comprendre, là encore doucement, ce qu'il est. Pour retrouver de la croissance, lorsque l'objet que l'on traite, c'est l'homme, c'est simple entre guillemets, il faut changer la nature de l'homme. Et il faut le, ici, numériser. Si l'être que je traite n'est plus un corps physique, ou qui exige une présence physique, mais un ensemble d'informations numériques, je sais tout de vos pulsions sanguines, je sais tout de vos désirs, je sais tout de votre capacité d'apprendre des langues étrangères, ou des choses comme ça, alors un logiciel, un algorithme, va pouvoir à distance traiter ce que vous êtes, sans avoir besoin de recourir à la personne qui est en face. Il y a un film que je cite dans le livre qui est, je crois, très important pour éclairer cet état d'esprit. C'est le film qui s'appelle Her, elle, dans lequel un homme qui a été quitté par sa femme tombe amoureux d'un logiciel. La voix est celle de Scarlett Johansson. Et il tombe vraiment amoureux d'elle pour des raisons qu'on comprend. Il tombe amoureux d'elle parce qu'elle sait tout de lui. Elle sait quand il est triste, elle sait quand il est gay. Et évidemment, de temps en temps, la question du corps physique, mais elle-même commande à distance une prostituée pour qu'elle fasse l'amour avec lui tout en lui parlant, elle, et continuant son histoire. Et le sommet du film est atteint lorsqu'il comprend qu'elle a cette histoire d'amour, non pas seulement avec lui, mais avec plusieurs milliers d'autres personnes à la fois. Et là, on a résumé ce qu'est la société numérique. Vous allez avoir une relation individualisée avec un logiciel, mais qui en aura tout autant avec beaucoup d'autres. Sachant que la vraie fin, encore une fois, il ne faut pas écouter là ceux qui n'ont pas vu le film, la vraie fin, c'est qu'elle se lasse de lui. Le logiciel se lasse de lui et elle tombe amoureuse d'autres logiciels où ils vivent un amour explosif et hyper exponentiel. Et là, on voit en effet que le pacte faustien qui était à l'origine de la société industrielle elle-même et qui était... Je renonce, comme travailleur, avec le travail à la chaîne, etc., à ma part d'humanité. Je répète 1000 fois les mêmes choses, c'est les temps modernes de Chaplin. Je renonce à ma part d'humanité, au nom de la croissance, parce que c'est comme ça que je vais produire plus de biens, que mes salaires vont augmenter, que j'aurai accès à des biens matériels. Ce pacte faustien, nous sommes en train, contrairement à ce que pensait Fourastier, nous sommes en train de le signer à nouveau. Nous acceptons cette déshumanisation qui était déjà au cœur de la société industrielle pour retrouver cet idéal, entre guillemets, de croissance. C'est pour ça que je termine là-dessus, pardon. Le titre, Les temps ont changé, c'est un clin d'œil, évidemment, à Bob Dylan et à Diane Tell, mais c'est un peu ironique, puisque, en réalité, je pense que l'équation fondamentale du monde contemporain, déshumanisation, entre guillemets, partielle, contre croissance économique, cette équation reste exactement la même aujourd'hui qu'elle n'était dans la société industrielle.
Avec le développement de l'intelligence artificielle, vous évoquez les rêves de certains milliardaires de la Silicon Valley, prêts à tout pour repousser les limites jusqu'à celle de la mort. Alors, quel regard vous portez aujourd'hui sur ces perspectives futures offertes par le transhumanisme, que les deux chercheurs en neurosciences, Daniel Trich et Jean Mariani, qualifient d'imposture scientifique dans un récent essai, une imposture qui risque en outre de créer une humanité à deux vitesses entre les humains augmentés d'un côté et les autres?
Bon, moi, je crois comprendre que tous les savants sérieux, dont ceux que vous signalez, disent que le transhumanisme est une imposture, que le moment où la machine et le cerveau humain pourront converger est très éloigné, à supposer même que ce soit à la fois possible et souhaitable, mais c'est le genre d'utopie, entre guillemets, de dystopie peut-être, qui prolonge ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'effectivement, on va dans une société où, par la machine, on a une continuation de nous-mêmes. On était, je reprends la métaphore avec le travail à la chaîne, on était à la chaîne avant et on était dans une société de consommation de masse, production de masse, consommation de masse. Il y a une nouvelle unité systémique qui est trouvée. On est en ligne au travail, on est en ligne dans la consommation et tout ça fait un nouveau système. Mais ce qui est très intéressant derrière ces questions, c'est évidemment que cette société en ligne, cette société algorithmique en réalité, elle est en train de produire ses propres pathologies, sa propre manière de rendre les consommateurs captifs. On est dans une société d'addiction. Netflix est un très bon exemple. C'est fait pour que vous soyez dans un rapport addictif. C'est une société de surveillance, mais la société industrielle d'avant, elle l'était déjà. Tout était fait pour en réalité surveiller, contrôler ce que faisaient les ouvriers. Maintenant, c'est d'une autre manière, mais on retrouve exactement le même type d'unité. Et on fête donc mai 68. Mai 68, on avait dit, Boltanski et Capello avaient écrit un livre très intéressant qui s'appelle Le Nouvel Esprit du Capitalisme, dans lequel ils disaient mai 68, c'est l'unité de deux critiques du monde industriel, une critique sociale, les ouvriers ne sont pas des objets, et une critique artiste. C'est quoi cette société consommation qui nous met devant la télévision? Je pense que la société numérique est en train de nous poser exactement la même question. Il faut une critique sociale. On n'a pas accepté l'ubérisation du monde comme ça, comme si c'était un état de nature. Et il nous faut une critique artiste. Il faut retrouver un sens de la civilisation. Pour le dire bêtement dans des exemples idiots, il ne faut pas accepter que quand vous parliez à quelqu'un, il soit tout le temps en train de pianoter sur son mail. Il faut retrouver distance critique, un peu ce que mai 68 avait voulu faire. Je crois qu'on a ces doubles critiques devant nous à construire entièrement, parce que au fond, les causes et les conséquences sont de même nature.
Pour conclure d'un mot, Daniel Cohen, quel est votre livre économique qui tient une place de choix dans votre bibliothèque à vous? Quel est l'ouvrage de référence pour vous, s'il ne fallait en citer qu'un?
Voilà, alors c'est un livre qui n'est pas un livre d'économie, mais que tous les économistes ont lu, parce qu'il est très important. C'est le livre de Jared Diamond. En anglais, ça s'appelle Guns, Germs and Steel, et en français, il a été traduit un peu bizarrement, De l'inégalité parmi les sociétés. C'est un livre fondamental, je crois, qui commence par une question toute simple. L'auteur, qui était un spécialiste des oiseaux en Nouvelle-Zélande, il n'a absolument rien à voir, il n'est ni anthropologue ni économiste, est accompagné à son hôtel par son chauffeur, néo-zélandais, qui lui dit « Mais pourquoi c'est vous qui êtes si riche et pas nous ?» Et il a passé les 10 années qui ont suivi à essayer de répondre à cette question. Pour le dire en un mot, il explique que l'Occident a dominé le monde parce qu'il était le bout d'une civilisation eurasiatique, aligné sur un axe est-ouest, qui fait que n'importe quelle découverte du globe, par exemple la domestication des chevaux, peut se retrouver partout et notamment en Occident, alors que les autres continents sont sur un axe nord-sud, ce qui fait que le lama qu'on trouve en Amérique du Sud n'est jamais remonté en Amérique du Nord, et quand les conquistadors viennent avec les chevaux, ils font découvrir aux Indiens d'Amérique cette chose incroyable. Le cheval.
Merci beaucoup Daniel Cohen d'avoir inauguré cette première bibliothèque idéale de l'écho. On mettra évidemment toutes les références sur le site. Je rappelle le titre de votre livre. Il faut dire que les temps ont changé. Chronique fiévreuse d'une mutation parue chez Albin Michel. Vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.